Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Merci beaucoup donc d'être là pour cette heure et quart que nous allons passer ensemble pour parler de ce livre consacré aux villes et à la culture sous l'occupation. Alors, donc François Stagliano de Garay, qui a donc présidé à la préparation des actes de ce colloque. Ce livre, il faut le dire, donc est le produit donc d'un le résultat, pardon, d'un colloque qui s'est déroulé ici même à Bordeaux. Donc c'était en novembre 2010, si ma mémoire est bonne. Décembre 2010, si ma mémoire est bonne. Donc un colloque tout à fait original, puisqu'il a permis, à travers une série de monographies venues de toute l'Europe et de tous les réseaux d'historiens, de faire un point complet, on va voir avec Françoise, mais un point en tout cas assez complet sur ce que fut l'occupation dans différentes régions de France, mais également à l'étranger, dans les ghettos juifs, dans l'Empire français, dans l'Europe entière, à l'époque donc sous l'occupation. Comment la culture a-t-elle pu résister et se développer pendant ces années noires. Alors, c'est un travail original dans le sens où il a été l'objet d'un appel à contribution très vaste et très fertile, puisque Françoise donc et son comité ont pu regrouper des dizaines et des dizaines de contributions. Les meilleures ont été retenues et donc les auteurs de ces contributions sont venus à Bordeaux plancher donc devant un public choisi. Voici donc à travers ce livre qui peut paraître épais mais qui est en réalité une collation d'articles et donc à ce titre très facile à lire puisqu'il est il n'est absolument pas nécessaire de le lire de A à Z ou en tout cas on peut le lire de façon très on peut le lire par tranche, on peut le lire par centre d'intérêt et donc il permet de se faire une idée très très large de ce que fut la culture, de comment la culture a pu être à la fois opprimée mais également sauvegardée pendant l'occupation nazie de l'Europe. Voilà, donc Françoise, peut-être un mot, s'il vous plaît, sur peut-être la composition de ce livre et la nature de ce colloque, puisque je crois qu'il a été tout à fait nouveau.
Oui, alors ça fait suite en fait à des travaux que j'ai pu mener sur Bordeaux sous l'occupation. Et puis c'est toujours intéressant ensuite de comparer, bien sûr, pour voir si le premier objet d'étude est original ou si on trouve ailleurs la même chose. Donc j'ai voulu comparer sur l'ensemble de la France, mais aussi dans une perspective internationale, parce que l'histoire culturelle de l'Europe est à faire. Bon, voilà. Et donc c'était une opportunité, que je trouvais passionnante. Alors c'est un colloque, on peut dire internet. On a envoyé ça avec le soutien moral et scientifique de Pascal Horry, un spécialiste éminent d'histoire culturelle, dans tous les réseaux d'historiens de la culture à travers le monde. Et on a eu énormément de propositions. Donc ça a été déjà une première bonne surprise. On a donc monté un comité scientifique avec les historiens de la Seconde Guerre mondiale et les historiens de la culture ayant travaillé sur cette période. Et on a eu l'appui donc pour trier toutes ces contributions de Jean-Yves Mollier, spécialiste d'histoire du livre, de Myriam Chimène, musicologue qui a travaillé sur la période de Vichy, de Laurence Bertrand d'Orléac qui a travaillé sur l'histoire des beaux-arts pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc les Parisiens ont joué le jeu, se sont même déplacés à Bordeaux pour trier toutes ces contributions. Et donc,
je précise que c'est vraiment un réseau qui a pu être activé et que Françoise donc qui travaille depuis très longtemps sur ces problématiques de la culture et des villes. Donc à ce titre, comme vous savez, elle est professeure d'histoire contemporaine et d'histoire culturelle donc à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Donc à travers ces réseaux, a pu vraiment avoir accès à une masse de contributions qui est tout à fait remarquable.
Donc on a des chercheurs américains, allemands, italiens, libanais même, donc Et français, bien sûr, avec des grandes pointures françaises. Il y a par exemple la signature d'Agnette Wiewiórka, qui nous parle des ghettos. La signature de Rémi Dalisson, qui a travaillé sur la fête pendant la période de Vichy. Ou encore de Christian Delporte, qui est un spécialiste de l'histoire des médias.
Et même Karine Lebaille aussi, qui a travaillé sur la radio.
Karine Lebaille, qui est une musicologue, qui a beaucoup travaillé sur la radio. On a pu réunir des historiens aussi de disciplines qui ne sont pas issues de la discipline histoire culturelle, mais mon collègue, par exemple, Hubert Bonin en histoire économique, avec qui donc j'ai travaillé sur la période marquée à Bordeaux, a travaillé dans cet ouvrage sur le pillage des œuvres d'art. Voilà, on a qui plus est, je trouve, une grande diversité des approches scientifiques. Parce qu'un historien allemand, finalement, ça ne travaille pas comme un historien français. J'ai vu ça. Également une diversité des styles. Et ça permet évidemment de rendre la lecture aussi intéressante et attrayante, attractive. Il y a des textes qui me paraissent extrêmement littéraires, notamment le texte de l'italienne Marcella Filippa. On circule comme ça à travers toute l'Europe et à travers l'Empire français et à travers donc des écritures et des approches scientifiques diverses et variées. Finalement, on peut picorer à travers cet ensemble et voyager. D'un point de vue scientifique, maintenant, il y a aussi, évidemment, et il a fallu que je sois extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire que les textes ont été passés au crible, bien sûr. Ce n'est pas, évidemment, de l'histoire impressionniste qui ressort de ces communications, surtout sur une période comme celle-là, où il faut être extrêmement exigeant, donc vérifier les sources, même si on a des manières peut-être moins cartésiennes que la manière française de procéder. Et tout le monde s'est plié à cette exigence scientifique et ça donne, je crois, quelque chose de sérieux et de solide. Alors, on avait organisé ce colloque en deux grands temps forts. Un temps fort sur la vie culturelle. Il m'intéressait de savoir sur le terrain ce qui s'était réellement passé. Donc on a plutôt l'habitude, à propos de la Seconde Guerre mondiale, d'avoir une espèce de macrovision de cette guerre. Là, c'était dans le quotidien. Donc on voulait faire remonter ce qui se passait sur le terrain. Donc un grand chapitre sur la vie culturelle elle-même, avec énormément de sondages sur des villes françaises, sur des villes, sur ce qui se passait à Varsovie, ce qui s'est passé à Turin, ce qui s'est passé aussi dans l'Empire avec des contributions sur Alger, Dakar, Beyrouth, Damas. Donc le vécu, essayer de prendre le pouls, voir s'il y a des similitudes, s'il y a des différences. Et puis une autre grande partie sur les politiques de la culture et le projet donc culturel de l'occupant. Donc on est dans un contexte extrêmement particulier d'oppression politique, de présence militaire, de censure, de propagande. Et le domaine culturel est en première ligne, bien entendu. Donc comment cela s'est-il passé? Comment ça s'est organisé? Comment les gouvernements locaux aussi de collaboration ont donc contribué ou pas contribué? Y a-t-il eu une logique identique à celle de l'occupant? Voilà tout un tas de questionnements donc, qui ont présidé à cette somme. Alors, quels sont les principaux enseignements?
Peut-être que la première chose qu'on peut remarquer, c'est que, vous l'avez rappelé, le contexte est un contexte oppressif, oppressif militaire. Et pourtant, la culture qui devrait être, comment dirais-je, totalement éteinte, puisque les élites sont dispersées, les théâtres sont fermés, le cinéma est mis sous tutelle, les écrivains sont pourchassés ou bien obligés de se taire ou en tout cas s'autocensure. Comment on constate pourtant que la culture, après une première période de sidération, peut-être arrive à se recréer, à revivre. Est-ce que c'est pas totalement une surprise pour une historienne de l'histoire culturelle qui a travaillé sur ces périodes, mais néanmoins on s'aperçoit que un petit peu partout la culture non seulement ne meurt pas, mais au contraire peut même parfois avoir un sursaut de vitalité. Est-ce que c'est pas ça qui est peut-être la première remarque?
La première constatation, oui, c'est qu'on on a même constaté ce qu'on appelait une espèce de vitalisme, de vigueur culturelle assez incroyable. Oui, après ce moment de sidération, on peut dire, mais dans les mois, par exemple en France, qui suivent la défaite, donc peut-être une interruption de un mois. Voilà. Ensuite, immédiatement, tout repart. Et l'offre même est souvent plus abondante qu'elle n'était avant-guerre. Donc on n'a jamais été autant au cinéma en France. Bon, les courbes de fréquentation sont ascendantes. La programmation dans les opéras, dans les théâtres, extrêmement abondante. Bon, donc on voit fonctionner les cafés, les radios publiques. Bon, voilà. L'intérêt, c'est de comparer. Donc, il y a des situations aussi qui sont plus difficiles que d'autres. Si on prend le cas de la Pologne, donc qui est présenté par une historienne new-yorkaise, mais qui est d'origine polonaise, l'occupant impose aux Polonais en matière de culture donc une oppression qui est beaucoup plus forte que celle qu'on va connaître en France, par exemple. Donc on interdit toute culture, je dirais, cultivée aux Polonais et on leur laisse une espèce de sous-culture quasiment obligatoire. Voilà. Et donc la culture cultivée va quand même continuer à survivre et elle quitte l'espace public pour se réfugier dans l'espace privé. Donc, et là, il y a, un lien absolument évident entre culture et résistance culturelle. Résistance culturelle nationale, là, en plus, hein, pour sauvegarder une culture nationale.
Voilà un contexte un peu particulier. Alors là, la culture part à la cave, là.
Dans les appartements,
dans les caves, dans les greniers.
Ce texte-là, je trouve cette contribution est très, très originale. On voit les appartements aménagés en cachette, derrière des murs, derrière des rideaux, et clandestinement, on invite les voisins et on assiste à une pièce de théâtre. Voilà. Mais il ne faut surtout pas se faire prendre. Il faut pouvoir tout remballer, tout cacher immédiatement. Donc, s'il y a une descente de police, voilà. Donc, c'est très, très particulier, oui, la situation de Varsovie.
Alors, évidemment, la situation des ghettos polonais, on peut évidemment, compte tenu de l'oppression terrible qui s'est exercée sur les Polonais, on peut imaginer très bien que que la culture ait été presque étouffée et que c'est sans doute assez miraculeux qu'elle ait réussi quand même à survivre. Dans le cas de la France, par exemple, on est dans une situation relativement différente, mais néanmoins, il y a bien cette séparation entre une culture visible qui peut sinon échapper à la censure, ou en tout cas qui peut être autorisé par l'occupant, et puis toute une culture qui est obligée de se cacher. Alors on pense à l'édition sous le manteau, on pense à des productions présentées dans des institutions clandestines. Enfin, donc il y a quand même, j'imagine, malgré tout, dans tous les lieux, une sorte de double séparation entre l'officiel et l'officieux.
Plus ou moins. On s'aperçoit que les programmations sont quand même surveillées, évidemment, par l'occupant, mais qu'il y a aussi une certaine tolérance, parfois, pour garantir une certaine paix, sociale. Bon. Par exemple, on est surpris de voir, donc il y a une communication très intéressante aussi sur Athènes, de voir les artistes donc du théâtre national refuser un directeur pro-nazi, et ils parviennent
à imposer à l'occupant
à refuser cette nomination, quoi. Donc bon, Donc il y a quand même une certaine tolérance aussi.
Donc il y a un jeu assez subtil entre l'occupant les autorités locales.
À la fois répression, à la fois aussi séduction, carrément aussi, un jeu de séduction qui aussi peut se jouer pour capter le... Alors ça se passe comment? Par exemple à Lyon, on a toujours aimé la musique allemande. Donc, quand l'Orchestre Philharmonique de Berlin vient, c'est un grand succès, comme ici d'ailleurs à Bordeaux. Il y a séduction par la qualité musicale. Bon. Mais il y a des espaces qui sont plus ou moins contraints, même en France. Il y a deux villes qui sont carrément abandonnées à l'occupant, et à l'occupant allemand, c'est Strasbourg par exemple, mais on a pris aussi l'occupation italienne dans la zone de Menton-Nice pour aussi voir ce qui s'y passait, c'était pas inintéressant.
Et alors que constate-t-on par exemple Menton
est aussi abandonné à l'occupant, c'est-à-dire qu'il y a une italianisation qui est menée à Menton. Et à Strasbourg, alors là, une germanisation forcée. De toute façon, c'était rattaché au Reich. Le Reich voulait en faire une capitale. Bon, voilà, donc très logiquement, la programmation musicale, on fait disparaître tous les non-ariens de la programmation musicale. Et on dépense énormément d'argent pour avoir une programmation d'excellence. Voilà, parce que là, il y a évidemment la période française qu'il faut gommer. Et montrer qu'on est capable de faire encore mieux, évidemment, que les Français, avec une production musicale exceptionnelle. Et donc, y a quand même un compositeur toléré, c'est Bizet, français, mais dit arien, donc considéré comme arien, toléré comme tel.
Vous avez parlé, Françoise, de certaines villes françaises, donc Strasbourg, Menton, Nice. Alors évidemment, on s'attend à voir des nouvelles de Paris, mais curieusement, le cas de Paris n'est pas envisagé dans ce colloque. Non pas parce que le cas de Paris n'est pas intéressant, au contraire. Peut-être est-ce que c'est parce qu'il a été beaucoup travaillé, beaucoup commenté.
Il a été commenté, travaillé, mais il n'y a pas une grande étude donc qui rassemble un petit peu le tout. Je crois que ça reste à faire.
Mais ça aurait pu faire peut-être l'objet d'un colloque à part.
Voilà, ça peut faire l'objet d'un autre colloque, étant donné, disons, la prééminence, le cas parisien en soi, et puis ce cas particulier aussi avec une France, évidemment, jusqu'en novembre 1942, une France occupée et une France dite libre, donc, et Paris, donc, qui est plus ou moins encore capitale. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en province, d'autres villes s'érigent en capitale culturelle, alors que jusque-là, ce n'était pas du tout le cas. Notamment, puisque toute la presse parisienne va s'installer, la grande maison de la presse parisienne s'installe à Lyon, et Marseille, par exemple, qui accueille la radio nationale. Je pense que ça a permis, cette période a permis aussi de développer l'idée de décentralisation un petit peu, de mettre en avant les villes qui jusque-là étaient quand même...
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'occupation nazie a indirectement permis le début de la décentralisation culturelle qui sera effective 40 ou 50 ans plus tard en France? Est-ce que ça a permis de...
Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que la guerre a perturbé la cartographie culturelle de la France et que l'idée de décentralisation, de toute façon, elle commence à progresser même avant la guerre. Je pense notamment à des gens de théâtre comme ceux du Cartel, donc Dulin, Jouvet, Copeau, qui voulaient développer le théâtre déjà en province dans un souci aussi de démocratisation, de rééquilibrer le territoire en matière culturelle. Sur ce plan-là, d'ailleurs, et ce n'est pas nouveau de le dire, donc Vichy a encouragé le développement aussi de la décentralisation théâtrale avec des associations comme Jeune France, qui à la fois implante des antennes. Ici, il y avait une antenne Jeune France, elle n'a pas duré très longtemps. C'est le projet culturel de Vichy, ça, de redresser la France en diffusant la culture auprès de la jeunesse. Donc ça, c'était idéologiquement évidemment très connoté. Mais à la fois, les gens qui ont transité par Jeune France étaient des gens aussi convaincus du fait qu'il fallait décentraliser et diffuser sur tout le territoire la culture. Bon, dès 1942, le régime d'ailleurs trouve que c'est déjà un peu trop dangereux, un peu trop subversif, et donc Jeune France disparaît. Bon, comme l'école du Riage d'ailleurs, c'est un petit peu les mêmes problématiques.
Alors une des surprises, par exemple, c'est de constater que l'occupation allemande, alors vous avez parlé des concerts, par exemple, de musique allemande, la culture allemande essaye évidemment de s'implanter, mais au fond, il y avait un mouvement d'américanisation de la culture qui n'a pas tellement été interrompu par l'occupation. Mm-hmm. C'est peut-être une des surprises qu'on peut avoir. Par exemple, il y a une contribution sur le jazz, mais il y a peut-être sur d'autres terrains. Au fond, l'introduction d'une certaine façon américaine d'aller au spectacle et de faire le spectacle, de faire la culture, on n'a pas été stoppé. Mm-hmm. Est-ce que c'est une chose qu'on constate en France et ailleurs?
On constate le phénomène en France, on le constate aussi ailleurs grâce à ces sondages dans de multiples villes. Alors en France, donc ça c'est le travail de Gérard Régnier qui travaille sur les hot clubs, donc sur le hot club de France et sur les hot clubs dans diverses villes françaises, y compris à Bordeaux,
donc
à Rennes.
Club de jazz, hein.
Oui, c'est assez amusant ensuite de regarder la communication donc de Didier Francfort sur Prague. Parce que, et aussi celle sur Turin, le jazz, tout est. Les titres sont transformés en langue nationale pour pouvoir être diffusés et échapper à la censure. Et ça, on le retrouve partout. On le retrouve en France, on le retrouve à Prague, on le retrouve à Turin. Et il y a donc un contournement. Et donc la culture américaine, hein, par le jazz, s'infiltre, continue à s'infiltrer, alors que les nazis, évidemment, ne tolèrent pas ce genre de musique. Ce phénomène-là montre que la guerre n'a pas interrompu la progression depuis le premier après-guerre. Hein, donc, ça, une longue progression. Alors, comment expliquer cela ? Ça s'explique, je pense, par le fait que la guerre n'a duré que 5 ans. Ce serait un premier élément d'explication. Deuxième élément d'explication, Gérard Régnier le souligne bien, il dit que l'occupant n'avait pas les moyens de contrôler. En fait, c'est un totalitarisme finalement inachevé. L'occupant n'avait pas les moyens de contrôler les programmes de musique, les productions de disques, d'aller dans toutes les salles, voilà, pour voir ce qui s'y passait. Et du coup, même d'ailleurs, c'est tout à fait insolite, il a trouvé la présence de soldats allemands, sans uniforme bien sûr, qui sont amateurs de jazz et qui fréquentent les hot clubs. Donc c'est quand même assez incroyable. Voilà. Donc l'américanisation, elle continue son chemin depuis le premier après-guerre. La Seconde Guerre mondiale, finalement, ne l'interrompt pas. Les échanges donc culturels continuent à se poursuivre, même s'ils sont rendus difficiles. Ils se poursuivent, on le constate, quand on s'aperçoit de la francophilie donc des Athéniens. Il y a un institut français qui continue à bien fonctionner. Ces échanges interculturels entre France et Grèce
et là, donc,
sont encore vérifiables pendant la guerre.
Et donc là, les autorités de Vichy, ne vont pas s'opposer à ce que ces liens se poursuivent. Il n'y aura pas... parce qu'il y a bien sûr la question de l'occupant, il y a aussi la question des autorités nationales qui collaborent plus ou moins avec l'occupant. Est-ce que dans ce cas précis, par exemple, on constate que Vichy ait voulu mettre des bâtons dans les roues à ces instituts à l'étranger, ou au contraire, fermer
non.
les yeux plutôt?
Je pense que Vichy n'a plus les moyens de mener une politique culturelle à l'extérieur. Il y a une contribution sur la Villa Médicis qui va être en transit, donc elle est fermée à Rome. Par l'Italie fasciste. C'est la ville de Nice qui va récupérer un temps la Villa Médicis. Parce que ça sert, Jean Médecin se rend compte déjà...
Jean Médecin, le maire de Nice.
Le maire de Nice se rend compte du côté, disons, vitrine touristique. Avoir la Villa Médicis, c'est bon pour l'image de la ville. On est déjà dans une démarche de marketing, on pourrait dire culturel. Et puis ensuite, elle va transiter par Fontainebleau, cette Villa Médicis, mais elle végète. Donc voilà un outil de rayonnement culturel international qui n'est pas utilisé par le régime. Voilà, on peut s'en étonner, mais je pense que Vichy aussi n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions, alors qu'on tient un discours de redressement national, de défense de la nation française. Voilà, c'est la guerre. Hein.
Alors vous avez dit que l'occupant n'avait pas toujours les moyens de contrôler tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait, tout ce qui s'écrivait, tout ce qui se jouait. Alors est-ce qu'il en va de même, par exemple, dans l'Empire? Parce que il y a des contributions sur Dakar, sur Beyrouth, sur Damas. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on constate que ces villes qui sont quand même plus éloignées, qui sont peut-être éloignées, qui ne sont pas forcément occupées de la même manière ou qui ne sont pas, est-ce que ce sont des endroits où la création nationale a pu se réfugier et prospérer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces villes?
En prenant le cas d'Alger, par exemple, donc, qui est traité par mon collègue Jacques Cantier, universitaire à Toulouse. Deux phénomènes finalement peuvent être, je dirais, retenus et paradoxaux. D'abord, l'aryanisation est très forte sur place, donc, enfin, c'est-à-dire l'exclusion des Juifs, par exemple, des établissements culturels, ça a été mené très, très fortement. Donc là, on a l'impression d'une emprise idéologique et du régime. Indéniable. Et puis, d'autre part, ce que je retiendrai, moi, de sa communication aussi, c'est la présence de foyers intellectuels d'extrême... Enfin, qu'on reconnaît comme, évidemment, très brillants. C'est la revue Fontaine, tenue par Max-Paul Fouché, les éditions Charlot, donc, qui ont publié Albert Camus, et qui sont des foyers de la résistance littéraire. Donc, ils sont publiés des auteurs interdits. Max-Paul Fouché est un petit peu inquiété, mais finalement, on tolère ce qui est produit par la revue Fontaine. Donc, voilà, une espèce de situation un petit peu paradoxale. Voilà une revue qui va devenir une vraie revue de la résistance, avec davantage de latitude que d'autres revues sur le territoire hexagonal. Voilà, donc c'est... Voilà pour le cas d'Alger. Beyrouth et Damas, la présence française et finalement culturelle française est assez ténue, je dirais. Mais par contre, on voit les cinémas qui diffusent beaucoup de films américains. Donc l'américanisation est aussi en marche sur ces terres du Moyen-Orient.
Qui ne sont pas sous la botte de l'occupant, contrairement à...
Non, puisque enfin, là, la situation est aussi très particulière.
La situation est particulière, puisque bon, le régime de Vichy est présent, mais donc en même temps...
Jusqu'en 1941,
très tôt. En même temps, en 1941, mais par exemple, Beyrouth et Damas, il y a déjà une lutte entre les gaullistes et les vichistes, donc je suppose que ça a évidemment une répercussion sur ce qui peut se passer dans ces villes, même s'il y a évidemment... pas forcément de lien direct entre la situation politique et militaire et puis la vie culturelle. Même si.
On sent assez peu dans la communication en question, dans le texte en question, finalement, l'impact de la politique française. Bon, jusqu'en 1941, c'est Vichy. Ensuite, c'est la France libre qui s'installe, appuyée par les Alliés. Et dans son texte, finalement, donc c'est une Libanaise hein, qui a fait cet article, la présence des Français, ce sont les étrangers. Ils sont perçus comme des étrangers. On a plus d'ailleurs dans ce texte de problématiques par rapport aussi par rapport à l'islam, aux interdits donc qui pèsent sur les femmes dans la fréquentation des cinémas. Voilà, on est déjà dans un autre contexte. Mais finalement, le fait colonial lui-même, et on le perçoit moins dans ce texte-là qu'en France, en ce qui concerne l'Algérie et en ce qui concerne Dakar. À Dakar, donc là, c'est un historien bordelais, donc un maître de conférence qui travaille ici, qui a travaillé sur Dakar. Et lui, il met en exergue l'espèce de continuité idéologique entre la période de Vichy et la période de la République, avec un effort pour, évidemment, influencer les élites, les jeunes élites donc sénégalaises, en fait. Mais pour lui, il y a une continuité. Voilà, donc c'est,
Si je reviens sur la France métropolitaine, on l'a dit, la période de l'occupation, il peut être très difficile pour la production culturelle, mais néanmoins, la consommation culturelle, elle n'a jamais été si forte. Est-ce que sur le plan des contenus, de l'émergence de nouveaux artistes, de nouvelles formes, est-ce qu'on peut considérer que l'époque de l'occupation a été une période plutôt fertile finalement, ou en tout cas a préparé le renouveau de l'après-guerre, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu pendant cette période très très difficile une prise de conscience devant des enjeux de la culture et de l'importance de la production culturelle pour maintenir le moral, pour continuer à vivre, et est-ce que ça n'a pas d'une certaine façon aidé la société à rebondir aussitôt après la fin de l'occupation? Est-ce que finalement ça n'a pas été une période assez de germination assez importante? Est-ce qu'on ne le constate pas, ça?
Difficile de répondre à cela.
Puisqu'il y a des œuvres qui ont été cinématographiques, théâtrales, des œuvres littéraires qui ont démarré sous l'occupation, qui se sont poursuivies sous l'occupation. Lorsque ces créateurs se sont revenus dans la lumière après guerre, finalement ils étaient auréolés. Et les personnes qui les avaient suivis, les personnes qui avaient consommé cette culture qui n'était pas autorisée, acceptée, est-ce que l'occupation n'a finalement pas eu quelques vertus de ce point de vue pour que la culture, en tout cas pour la diffusion de la culture et sa valeur?
Moi, j'avais envie de prendre le biais des... de répondre à cela d'abord par la consommation culturelle, puisque vous avez démarré en évoquant cette consommation culturelle. On s'aperçoit qu'il y a à la fois une consommation culturelle très légère pendant la guerre, voulu d'ailleurs par l'occupant, parce qu'il faut divertir aussi les troupes. Donc c'est music-hall, opérette, café-concert, une grande frivolité et une culture qui n'est pas une culture de qualité. Et puis à côté de ça, la culture de prestige qui est diffusée dans ce qui pourrait être comme ici le Grand Théâtre ou l'Opéra de Lyon, voilà. Donc une dichotomie qui finalement fait qu'il n'y a pas de différence entre la période de la guerre et l'après-guerre. Voilà, donc bon. Alors après, je crois que dans la question, il y avait l'idée, mais on n'est plus, disons, sur... on peut parler des milieux littéraires résistants, oui, mais bon, c'est pas tellement la problématique du livre. La guerre,
c'est relativement étroit comme réalité. Ce sont des très faibles tirages, donc c'est pas un phénomène de masse. Puis là, vous êtes plutôt intéressé donc au phénomène de masse, enfin aux arts. Aux arts qui avaient, avant-guerre et après-guerre, un public très large, théâtre, donc vous l'avez dit, opéra, music-hall, opérette, fête.
Puis aussi cinéma, forcément. Ça, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui émerge, avec des gens comme Clouseau, par exemple. Au moment du colloque, d'ailleurs, on a diffusé Le Corbeau, parce que ça nous paraissait...
Corbeau qui est 1943, je crois.
Oui, donc ça nous paraissait évidemment très révélateur de l'époque, d'autant que c'est un film qui a été dans l'ambiguïté même par sa production, et même inquiété pendant la guerre, mais quand même diffusé, comme démoralisateur, voilà, puisque ça traite de la délation, évidemment, sous Vichy, c'est... C'est bien dans l'époque, mais quand même diffusé. Bon, il n'y a pas eu, une audience très, 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 très importante. Et puis, au lendemain de la guerre, Clouseau accusé, évidemment, d'avoir, à la limite, été financé par des capitaux allemands. Une ambiguïté de ce film et de sa production et de sa diffusion. Bon, oui, la guerre, disons... permet une transmission, permet peut-être à de nouveaux talents, oui, d'émerger, et puis va aussi en exclure d'autres qui se sont compromis. Alors on a un texte qui traite justement de la compromission dans les milieux du théâtre et dans les tournées, et qui pose évidemment la question morale. Fallait-il continuer à tourner, à se produire devant l'occupant? Est-ce que ce n'est pas déjà un premier acte de compromission que d'accepter de se produire devant l'occupant?
Alors là, les réponses sont très diverses.
Oui, mais bon, ça, c'est intéressant d'un point de vue, je dirais, citoyen aussi, de lire ces contributions, parce qu'évidemment, on s'interroge à partir de quand est-on dans la compromission, en fréquentant les mêmes lieux publics que les Allemands, même le public lui-même, et quand même, on devait quand même s'interroger ou ne pas s'interroger. Et puis, on a toute la gamme, évidemment, des compromissions qui vont de la passivité, finalement, du plus grand nombre, à la collaboration, voire au collaborationnisme, perceptible. Entre autres, dans certains milieux plutôt fermés, des idéologues, les milieux des conférences sont particulièrement, concernés. Beaucoup de conférences où on diffuse l'idéologie pro-nazie, aussi bien en Belgique qu'en France, dans diverses villes. Toute cette gamme est mise en lumière. Bon, il y a des contributions très, très... où il y a des extraits très, très parlants, hein, des options idéologiques de certains acteurs ou actrices. Voilà.
Vous avez parlé des propositions culturelles faites par l'occupant, vous avez parlé de ces orchestres allemands qui venaient jouer dans les salles françaises. Bon, il y avait aussi des opérations de propagande. Bon, tout le monde connaît l'histoire de l'exposition sur le juif et la France. Qui avait été diffusé à travers le pays, pas partout. Est-ce qu'il y a eu beaucoup comme ça de propositions culturelles ou propagandistes qui tendaient à supplanter la production culturelle locale et à influencer la population? Ou est-ce qu'au fond l'occupant n'avait pas vraiment les moyens de multiplier ce genre de choses et préférait contrôler ce qui se passait?
De nombreux textes posent la question, oui, de l'antisémitisme, de l'aryanisation aussi dans les équipements culturels, dans les établissements culturels, et de l'antisémitisme. Alors, quelquefois avéré, quelquefois pas avéré. Bon, en tout cas, effectivement, la diffusion de films antisémites. Et puis, on peut aussi revenir sur cette exposition « Le Juif et la France ». L'exposition « Le Juif et la France » a transité par le Palais Berlitz à Paris, à partir de supports qui avaient été déjà exploités, notamment en Allemagne, bien sûr. Le projet, c'était de diffuser cette exposition dans toute la France, dans une dizaine de villes. Au final... Il n'y a que deux villes qui vont l'accueillir, Bordeaux, donc j'ai appris tout ça en travaillant uniquement sur Bordeaux, et puis l'autre ville, c'est Nancy. Et j'ai beaucoup regretté qu'il n'y ait pas de contribution sur Nancy.
Ni sur Bordeaux, d'ailleurs.
Sur Bordeaux, il y en a eu deux, puis ils n'ont pas remis leur texte. Alors,
Oui, mais d'accord, donc vous n'aurez pas de contribution, les contributions sur Bordeaux
moi,
ne sont pas dans le livre,
Bordeaux,
c'est dommage.
Moi, je parle de Bordeaux de toute façon, alors donc voilà. Je renvoie au marqué.
Oui, cela dit, c'est ça. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a donc cet ouvrage collectif qui a été fait à Bordeaux par François Staliano de Garay, Hubert Bonin et Bernard Lachaise, et qui est consacré donc à la trajectoire politique de Marquet et à l'intérieur d'Adrien Marquet, ancien maire de Bordeaux, et à l'intérieur, donc il y a notamment deux chapitres sur la politique culturelle bordelaise, donc dans les années 20 et 30. Hein.
Oui, et jusqu'à la fin de la guerre.
Et jusqu'à la fin de la guerre.
Et donc, avec cette exposition, d'ailleurs, il y avait diffusion de films antisémites. Alors, j'ai pu comparer ensuite avec Lyon et la diffusion de films antisémites. Ça, c'est intéressant. Et une audience importante, très importante à Lyon aussi. Mais par contre, un boycott avéré, donc c'est la contribution... de Benoît Bruneau, un boycott par les jeunes de classe préparatoire à Lyon qui ont boycotté, manifesté, et finalement on a diffusé le film Lumière allumée, mais par contre pendant deux semaines ils ont fait sale comble, quoi. Donc Et ces films sont diffusés en général, à partir de 1942. Ici, c'est très, très net. C'est juste avant les grands convois de déportation pour lesquels Maurice Papon a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc la propagande, oui, elle est très active. Et la compromission, au final, des municipalités qui acceptent soit dans l'enceinte de leur musée, comme ici, soit sur leur territoire, même si c'est dans des équipements privés comme les cinémas. Forcément, ça pose question.
Et donc, et ça c'est l'objet de la deuxième partie du livre, de ces actes de colloque, ce sont les politiques culturelles, donc votre spécialité, hein, les politiques culturelles des villes. On constate qu'elles ont été assez différentes pendant l'occupation, hein, d'une ville à l'autre, selon les situations locales, selon le degré de présence de la censure, de l'occupant, selon qu'on est en zone libre ou en zone occupée, puis selon aussi peut-être le courage ou la lâcheté de certains, je ne sais pas.
Mm-hmm. En tant qu'historien, on se pose toujours la question à propos des politiques culturelles, ça commence quand ? Ma réponse ici à Bordeaux, ça a été de dire que ça a commencé dès les années 20. C'est surtout la taille de la ville qui importe, ce que révèle davantage un peu plus cet ouvrage. Donc, dans les villes de taille évidemment suffisante, comme Lyon, il y a une politique culturelle. Par contre, la communication sur Dijon et Troyes montre qu'il y a, la conclusion, c'est plutôt une action culturelle. Qui va être centrée, par exemple, à Dijon, sur le musée. Le musée, donc, qui passe en régie municipale. Ça veut dire que la municipalité s'investit et dépense, d'ailleurs, pendant la guerre, dépense pour son musée dans le palais qu'elle l'installe dans le palais des ducs de Bourgogne. Donc il y a un vrai volontarisme, mais il reste limité au secteur des musées à Dijon. Bon, je pense que c'est la taille de la ville qui importe, qui fait qu'on peut parler ou non de politique culturelle.
Une ville comme Menton, par exemple, à l'époque, évidemment, c'est une petite ville.
C'est la politique culturelle donc, des là, Italiens qui, oui. qui installent...
Donc, que vont faire les Italiens donc, dans une petite ville française
Ils installent un centre culturel italien pour italianiser.
D'accord. Voilà.
Tout est italianisé, les panneaux, la signalétique des rues. On essaie de retrouver des archives pour montrer que Menton et Nice ont toujours été italiens. Donc on utilise les archives et l'histoire, on réactive, on fait des conférences là-dessus pour convaincre la population locale qu'elle est italienne et qu'elle n'est pas française.
Donc ce que les Italiens font à Menton, c'est de l'action culturelle, de l'italianisation. Est-ce que les Allemands vont
faire... C'est
la propagande. Est-ce que ce que les Allemands vont faire à Strasbourg, qui est une grande ville, ça va être autre chose. Ça va être une politique de germanisation et une politique culturelle aussi. Musique, théâtre...
C'est clair qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, et des dépenses énormes en matière de musique.
Donc, dans la culture, donc les nazis vont investir dans la culture
Alors,
à Strasbourg.
Ils investissent dans la culture et la culture est pour eux importante. Je parlerai d'une communication aussi sur laquelle je n'ai pas encore beaucoup insisté, celle sur les pillages artistiques de mon collègue Hubert Bonin, qui montre l'ampleur du système mis en place par Hitler, par Göring aussi.
Souvent pour des motifs personnels, mais pas seulement.
D'abord par passion personnelle, mais aussi par idéologie, pour faire retourner dans le Reich toutes les œuvres dites allemandes ou ariennes, et pour, encore une fois, montrer la supériorité de l'Allemagne sur la culture européenne et mondiale. Il y a aussi une espèce de front culturel qui est très perceptible dans cette communication. On a aussi assez peu parlé, je trouve, des ghettos, qui c'est quand même quelque chose de très particulier, parce que là, évidemment, c'est la situation la plus extrême qui soit. On a placé la présentation des ghettos dans la vie culturelle pour voir ce qui s'y passait. Bon, la communication d'Annette Wiervoorka démarre en disant « mais cette communication aurait pu aussi bien être intégrée dans le chapitre sur la résistance culturelle », c'est vrai. Et elle raconte, plus particulièrement, le travail mené par à l'équipe autour
de Ringelblum, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, d'Emmanuel Ringelblum.
Alors, on peut rappeler qui était cet Emmanuel Ringelblum ?
C'est un historien donc, qui, dans le ghetto de Varsovie, va rassembler une équipe qui va s'employer, finalement, à archiver et ensuite à cacher tout ce qui peut témoigner de la vie dans le ghetto et de l'extermination. Donc c'est, on a retrouvé, tout a été caché dans des bidons de lait qui ont été mis au fond de, sous terre, au fond de cave. Évidemment, tout a été bombardé ensuite, mais on a retrouvé une partie de ces archives sauvegardées. On trouve des journaux personnels, elle raconte tout ça. Et finalement, pour elle, ce qui est évidemment très très signifiant, c'est que là, on transmet la culture, on la sauvegarde pour ne pas qu'elle meure finalement, cette culture juive. Et donc c'est un acte ultime qui nie d'une certaine manière le génocide en lui-même, puisque tout génocide vise à éradiquer toute trace, même toute trace du génocide lui-même. Donc c'est une manière de perpétuer finalement la vie d'une culture que de sauvegarder par l'archive. C'est donc cet historien Ringelblum qui a œuvré et qui est le centre de la communication.
Ensuite, mais là, on peut dire qu'on est au-delà de la, on est au-delà de la culture. On est dans la survie de la survie d'une société.
C'est presque, oui.
Donc ça passe. Là, je dirais que c'est plus qu'une action culturelle ou une résistance culturelle. On est dans la résistance tout court et la survie là, et donc une démarche de survie d'une civilisation.
Oui. Dans une communication qui ne concerne pas les ghettos, d'ailleurs, il y a le terme de résistance existentielle, c'est-à-dire par la culture. On affirme son existence. Et là, c'est affirmé au-delà de la mort. Quoi. Ensuite, il y a une très belle communication donc, d'un collègue allemand, Frank Golzwetzki, j'accorde peut-être son nom, qui aussi nous a donné une documentation intéressante parce qu'il nous a donné une cartographie. Et bon, si vous pourrez feuilleter, on est étonné par le nombre de ghettos qui couvrent toute l'Europe centrale et orientale.
Il y a une carte d'ailleurs dans le livre. Il y a une carte dans le livre qui est assez parlante.
Ça permet de couvrir aussi comme ça, d'avoir un aperçu jusqu'à l'Ukraine. Hein, donc de cette entreprise de ghettoisation et ensuite d'extermination. Et dans cette contribution, il est question donc de la présence, notamment dans le ghetto de Vilnius, d'un théâtre, de bibliothèques. Il s'appuie beaucoup sur des témoignages écrits ou sur des œuvres aussi qu'on a conservées. Et il est lui aussi également frappé par le fait que la culture, finalement, c'est le dernier refuge pour continuer à vivre dans un univers qui n'est pas supportable, dans un univers où on meurt de faim. Et un univers de mort annoncée aussi, et un univers du désespoir absolu. Et la culture, finalement, est quelque chose à quoi on se rattache. Il y a des exemples très... il parle d'affiches dans les bibliothèques, dans la bibliothèque de Vilnius. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est le témoignage de la bibliothécaire elle-même. En avril 1942, la bibliothèque affiche des slogans comme « Votre unique consolation dans le ghetto, c'est le livre. Avec le livre, vous pouvez oublier la réalité. » Autre slogan, « Le livre, c'est une façon d'être rassasié en temps de famine. » Donc, c'est quand même assez inouï. Et puis, il restitue des... C'est pour ça aussi que je trouve ça très, très original. Il restitue des chansons ou des poèmes du ghetto qui ne sont pas totalement désespérés. Donc, c'est notamment la fameuse chanson de Ponard, écrite en 1943, où l'on sent, si vous voulez... La possibilité d'un espoir, toujours d'un espoir. Donc, 43, d'ailleurs, c'est le tournant de la guerre. Il y a le texte en yiddish, plus la traduction. Donc, ne te réjouis pas, enfant, ton sourire est maintenant pour nous une trahison. L'ennemi doit regarder le printemps comme une feuille en automne. Que la source coule, calme, soit silencieux et espère. Avec la liberté revient le père. Dors, mon enfant, dors. Comme la vilia libérée de la glace, comme le vert des arbres, la lumière de la liberté s'allumera bientôt sur ton visage. Donc, on est en 43. C'est quand même... quand même assez inouï de sentir l'espoir à travers la poésie donc, et la chanson.
Et donc la culture, donc, s'il est vrai que l'homme ne vit pas que de pain, la culture est d'une certaine façon ce pain-là, voilà. Un peu noir, mais ce pain-là. Hein. Voilà, donc merci beaucoup Françoise, merci à vous d'être venu.